7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi. Nous pénétrons dans le mystère de l'apprentissage des langues étrangères, avec un homme qui, à travers son expérience singulière, propose une autre relation au langage. Bonjour Daniel Tammet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct, vous êtes anglais, d'abord connu comme écrivain, avec un succès mondial pour votre premier livre, Je suis né un jour bleu, mais surtout comme l'un des 100 génies vivants, selon plusieurs scientifiques, à cause de vos, d'abord de vos hautes capacités en mathématiques, qui seront d'ailleurs pour vous un peu comme une langue maternelle, hein, mm-hmm. si j'ai bien compris.
Oui.
Pas probablement plus que l'anglais. Hein.
Oui, plus.
Vous avez été, il faut le dire aussi à notre auditoire, vous avez été diagnostiqué il y a quelques années comme autiste Asperger. C'est vous nous expliquerez ce que ce syndrome implique dans votre façon d'appréhender de nouvelles langues. Vous êtes ce que l'on appelle un hyper-polyglotte ou surdoué des langues. Vous parlez combien de langues au juste aujourd'hui, Daniel Tammet ?
Mais pour le livre que je viens de sortir, j'ai dû utiliser 7 langues.
Mais réellement, aujourd'hui, vous parlez combien de langues ?
Dans ma vie quotidienne, j'utilise 3 langues. L'anglais, le français et puis l'islandais, puisque j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai fait des études de français et d'allemand au collège, au lycée. Donc une dizaine.
Oui, vous avez étudié, parlé le lituanien, mais qui est un peu comme un lointain souvenir maintenant.
Oui, c'est ça. Oui, ça fait 20 ans.
Vous avez inventé également votre propre langue, le Menti, je prononce bien, qui compte environ 1000 mots et qui s'inspire de langues scandinaves. Et votre dernier livre, Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter, aux éditions Les Arènes. Que signifie ce titre ?
Que les mots sont quelque chose de vivant et que, comme des oiseaux. Et que c'est l'humain qui décide le sens de chaque mot. Ce n'est pas les mots qui décident le niveau de notre intelligence ou la capacité, notre capacité à penser, à réfléchir. C'est l'humain qui donne ce sens au langage.
Alors on va parler tout de même de ces secrets du langage, sur la nécessité d'entrer dans la poésie des langues. Vous parlez beaucoup de cette poésie, d'abord parce que vous avez enseigné des langues avec de la poésie. Autant dire qu'on va tout de même pousser la porte d'un monde assez inconnu pour tous ceux qui ont étudié les langues étrangères de manière très classique. Également avec nous, Barbara Abdelila Bauer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociolinguiste, psychosociologue, vous êtes bilingue, votre langue maternelle c'est l'allemand. Vous parlez le français, vous avez un peu remué la tête quand j'ai dit bilingue d'ailleurs. Vous avez publié le défi des enfants bilingues.
Oui, je me considère comme bilingue, non, vous avez raison, bien sûr. L'allemand c'était ma langue de première socialisation, c'était ma seule et unique langue jusqu'à l'âge de 15 ans. Non, même, oui, parce qu'avant, j'ai commencé au lycée, enfin, j'ai appris le français classiquement en Allemagne, au lycée, ensuite, je l'ai étudié à l'université, ensuite, j'ai appris à le parler réellement, une fois installé en France, d'abord en Algérie, où j'ai appris à parler le français, mais avec l'accent algérien, un peu, ou du sud, vous savez, on dit la rose et pas la rose. Ouais. Et je disais la rose quand je suis venue après à Paris. Je disais la rose et on se moquait de moi. Et voilà. Et après, j'ai appris, ça fait près de 40 ans que je suis en France maintenant. Et puis voilà. C'est devenu ma langue, pas ma langue maternelle, mais ma langue dominante. Voilà.
Alors, comment les langues étrangères entre en nous pénètre. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos invités et vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis en fin d'émission, un nouveau rendez-vous, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Je vous lis quelques messages. Le message d'Adam qui est à N'Djamena au Tchad. Il nous dit « Je parle l'anglais et l'arabe. Actuellement, j'apprends le français. Et lorsque j'apprends une langue, j'ai besoin d'apprendre la culture du ou des pays. Une langue est liée à une société. Paco à Dakar est d'accord. Apprendre les langues, c'est d'abord s'intéresser aux autres. C'est une belle façon de s'ouvrir. C'est incontournable, enrichissant. Et au passage, merci à la langue française. » Vous êtes d'accord avec cette ouverture complètement indissociable aux autres avec
oui,
la langue?
Oui, tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de mon autisme, qui est un enfermement biologique lié au développement des neurones, connexions neuronales dans le cerveau dès la naissance. Et j'ai eu cette chance très jeune d'entrer dans un rapport très sensoriel avec le langage, de voir dans les mots, comme dans les chiffres d'ailleurs, des couleurs, des textures, des formes, des personnalités même. Et ça m'a aidé énormément dans la mesure où ça m'a permis de sortir justement de ce qu'aurait pu être une prison, la prison de l'autisme, pour aller à la rencontre des autres, que ce soit d'autres pays, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres manières de percevoir les choses, puisque chaque langue est une porte différente sur le monde, et à chaque fois qu'on apprend une autre langue, c'est une autre manière d'être dans le monde, de vivre l'existence humaine pleinement.
Et est-ce qu'on est une autre personne quand on parle une autre langue, Barbara Abdel?
Non, bien sûr, on n'est pas... C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient penser que quand on est bilingue... J'entends ça souvent quand je travaille avec des professionnels qui, eux, sont en relation avec des enfants bilingues. On a l'impression un peu que la personne est double. Elle ouais. est quelque part schizophrène. Mais ce n'est pas vraiment ça. Bien sûr, on est une seule personne. Mais... on s'aperçoit que quand on change de langue, on change même de ton. Par exemple, quand je parle allemand, je parle plus fort. En français, on parle beaucoup moins fort. Vous voyez, et des choses comme ça. Et puis, quand on est dans le pays ou avec des gens, moi, avec des germanophones, oui, je pense qu'on bouge aussi un peu différemment. Mais de là à dire qu'on est vraiment une autre personne, bien sûr que non, parce qu'on a toutes nos langues et toute notre histoire toujours en nous. Et vous savez bien que même si vous êtes trilingue, les langues sont toujours toutes actives. Et elles n'attendent que de sortir quand vous parlez. D'ailleurs, ça arrive souvent quand on est dans une langue, il y a tout d'un coup un concept qui apparaît dans l'autre langue et on n'arrive pas vraiment à trouver l'autre langue. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, pour dire qu'on est une, mais avec différentes possibilité de s'exprimer.
Nos invités qui viennent dans ce studio, qui sont de langue maternelle allemande, sont toujours alors très disciplinés. Alors, dire, ah bah oui, la culture allemande. Non, mais ils ne s'interrompent jamais les uns les autres, par exemple. Ce qu'on fait beaucoup en France, vous avez pu l'expérimenter quand vous passez à la télé, Daniel Tammet. Mais ils disent, mais c'est normal, chez nous, le verbe est à la fin. Il faut attendre la fin de la phrase pour comprendre ce que veut dire l'autre, non?
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Et quand je regarde des tables rondes là, ou des sortes de talk shows à la télévision allemande, au début, c'est vrai, on se disait, mais regarde, ils parlent, ils ne s'interrompent pas. Ça a changé quand même. Hein. J'ai constaté que les gens changent et s'interrompent aussi. Et puis, vous savez, entre allemands, on sait ce qui va venir. On n'a pas besoin d'attendre le verbe qui va venir. On connaît la phrase, donc on pourrait très bien aussi interrompre. C'est pas aussi simple que ça.
Daniel Tammet, dans quelle langue vous aimez-vous le plus? Vous-même?
Je pense que, j'ai dit dans ce nouveau livre, ma langue maternelle, ce sont les nombres. Parce que, enfant, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le langage humain, que ce soit l'anglais de mes parents. On parlait que l'anglais à la maison. Ou plus tard, le français, l'allemand que j'apprenais au lycée, au collège, puis au lycée.
Vous n'étiez d'ailleurs pas surdoué pour les langues à cette époque-là, au collège-lycée, quand vous avez appris le français, l'allemand, ou déjà?
J'avais déjà... puisque j'apprenais beaucoup plus vite que les autres, puisque j'avais un rapport instinctif aux mots, aux langues, qui n'était pas le cas de mes élèves qui apprenaient par les méthodes classiques, dites classiques. Mais pour moi, puisque je voyais dans les nombres toute une poésie, avec les couleurs, les formes, quand je voyais la neige, par exemple, pour moi, c'était la 4 à 9. Quand j'étais timide, je me disais pas, je suis timide, je me disais, je suis 4, le chiffre 4, parce que pour moi, la 4, c'est le concept dans ma langue numérique. de la timidité.
362, puis, c'était manger. C'est ça, un mouvement de cuillère. Voilà. Alors, autant dire que pour nous, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais il y a une grammaire, il y a des règles, il y a des associations. Pourquoi 362, puisque c'est le double de 180, 181, c'est pour moi dans ma tête qui voit les choses en forme, en texture, en couleur, 181 ressemble à une cuillère. Donc il y a quand même des associations comme ça qui donnent un sens à cette langue. Et puis par la suite, je comprenais que les langues, c'est un peu pareil dans notre mesure, mais plutôt que d'utiliser les chiffres pour créer ces associations-là, on utilise des sons, on crée des mots, des phrases, des paragraphes. Et tout le défi après, c'était de savoir pour chaque langue quelle était la manière d'associer tel ou tel concept, tel ou tel. Il y a des sons en anglais qui, quand on prononce gle, par exemple, souvent ça a quelque chose à voir avec la lumière. Glow, gleam, glitter, même les lunettes, par exemple, glasses, parce que ça reflète la lumière. Mais en français, on ne pourrait pas utiliser le même son. Pourtant, ces mêmes associations existent, mais avec les sons lus. Lumière, lustre, lucarne, luciole. Donc, pour chaque langue, il faut entrer dans la langue et comprendre par quel moyen sonore, avec quel son sonore, on associe les concepts abstraits, comme la lumière, par exemple.
On peut le faire dans toutes les langues ?
Dans toutes les langues, je pense que ça existe dans toutes les langues.
Mais c'est pas forcément lié à l'étymologie, à la racine des mots ?
Pour certains mots, oui. Mais pour d'autres, non. Il y a ce qu'on appelait par le passé les onomatopées. Et on pensait que c'était un phénomène plutôt minoritaire, que dans les langues, il y a quelques 5 ou 6 mots, par exemple. Aujourd'hui, les linguistes s'intéressent beaucoup plus à ça parce qu'on se rend compte qu'il y a des milliers, des centaines, voire des milliers de mots dans chaque langue, et surtout dans les langues africaines, puisque c'est là où les linguistes ont fait les plus de recherches, mais même dans les langues européennes, ça existe beaucoup aussi. Et on appelle ça aujourd'hui les idiophones. Ce sont pas simplement des mots qui transmettent des informations, mais qui transmettent également et surtout une expérience sensorielle.
C'est ça. Alors, vous redonnez un exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans votre livre, mais vous avez enseigné l'anglais en Lituanie quand vous aviez 19 ans. Une expérience assez particulière. Vous vous êtes retrouvé là, vous ne parliez pas un mot de lituanien. Pour rappel, hein, la Lituanie, c'est une des 3 républiques baltes dans l'ex-URSS. Mm-hmm. À l'époque, en plus, c'était peu de temps après la chute du mur.
Oui.
Hein. C'était dans les débuts des années 90. Hein.
Vers la fin des années 90.
Donc, 10 ans, voilà. Mais vous y étiez 10 ans après, hein,
oui,
grosso modo.
Voilà.
Et vous devez donner des cours d'anglais. Vous avez vous expliquez par exemple que vous procédez par association de mots: sleep, dormir, slide, glisser, slope, la pente, slump, l'effondrement. Qu'avaient ces mots en commun? À l'œil, à l'oreille, beaucoup. Sleep, debout ou assis, on s'allonge. Sleep, slide et slope, je prononce sûrement moins bien que vous, une descente. Slump, les actions d'une entreprise s'effondrent.
Oui.
Pour vos élèves, cela avait du sens?
Absolument, puisque tout de suite, ils comprenaient le mouvement. Tous ces mots avaient en commun un mouvement de haut vers le bas. Et donc c'est quelque chose de très simple instinctivement. Et puis les mots incarnent cette chose en commun, puisque les mots avaient la même longueur, commençaient par les mêmes sons, avaient souvent la même consonne P vers la fin. Et puis un autre exemple que j'ai donné, c'était les mots qui commençaient par SM ou SN, SMOSNE, qui avaient presque tous à voir avec le nez ou la bouche, smo, fumer, snon, ronfler, sneer, c'est une manière de grimacer, pas très sympathique d'ailleurs, et ainsi de suite, il y a plein en anglais. Et en allemand, c'est pareil, il y a plein d'exemples dans toutes les langues. Et donc c'est une manière instinctive, et c'est dommage qu'à l'école, on n'apprend pas de cette manière-là, puisque je pense qu'enfant, quand on est tout petit, instinctivement, de manière synesthétique, On apprend comme ça notre langue maternelle.
Tout à fait. Vous parlez de séries d'images connectées pour l'apprentissage des mots. On va y revenir. Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Toutes vos questions pour l'apprentissage des langues étrangères.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Ninel.
Bonjour Manuel.
Ninel, vous avez 24 ans. Je crois que vous êtes traductrice anglais et espagnol vers le français, c'est bien ça?
Oui, Manuel, c'est bien ça.
Vous avez une question à poser à nos invités.
J'aimerais savoir quel est l'impact de l'âge sur l'acquisition d'une nouvelle langue. Parce que là, je vis déjà, je suis plutôt jeune. Et je désespère d'être polyglotte.
Ah, d'accord.
Et mon anglais et mon espagnol, c'est pas trop ça. Je traduis à l'écrit, mais à l'oral, c'est pas trop ça.
Ouais, d'accord. Vous n'avez que 24 ans. Alors, Barbara Abdelila Bauer.
Oui, c'est une question intéressante et c'est une très belle idée de vouloir être polyglotte. Et à 24 ans, sauf être David Tammet, je dirais, il faut malheureusement passer par des méthodes très classiques. Vous disiez que elle lit déjà l'anglais, si j'ai bien entendu.
Oui, bien sûr, puisque
elle veut parler, c'est ça.
C'est ça. Vous comprenez, vous lisez l'anglais, l'espagnol que vous traduisez vers le français, mais vous ressentez des difficultés à parler ces langues, c'est bien cela, l'anglais et l'espagnol.
Oui, c'est ça. J'ai discuté à parler et le listening, c'est pas aussi trop ça. Mais à l'écrit, non, pas de problème.
Pour comprendre à l'oral.
Oui. Mais c'est ça, mais là, il n'y a pas de mystère. Il y a juste le contact avec des gens qui parlent la langue. Si vous avez les bases déjà, si vous arrivez à lire et écrire, c'est à la limite, c'était le plus difficile, si vous voulez, parce que vous avez la grammaire et tout. Et maintenant, il faut vous entourer, essayer de trouver des gens avec qui vous parlez de sujets qui vous intéressent. Je ne sais pas si vous pouvez, peut-être sur Internet, via Skype, trouver des partenaires. Vous savez, il y a des partenaires de langue pour échanger. Tout est dans l'échange maintenant. On n'apprend pas on apprend à parler en parlant et pas autrement.
Dans la relation, n'est-ce pas? À l'autre, Daniel Tammet, sur cette question de l'âge.
Les linguistes disent qu'on apprend le mieux très jeune. C'est vrai, pour des raisons neurologiques en partie. À partir de 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Les connexions changent plus de la même manière. C'est plus difficile d'apprivoiser et d'apprendre une nouvelle langue. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'il y a des recherches qui montrent cela. Chez certains, il est possible, en effet, d'apprendre à parler une deuxième, troisième, quatrième langue à l'âge adulte, avec très peu d'accent et avec beaucoup de confiance, beaucoup de fluidité. Comment ? Mais comme disait Barbara, il faut aller vers les gens, il faut parler avec beaucoup de courage au début, il faut une certaine confiance, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, et il faut être assez exigeant après, par la suite, pour apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs.
Vous-même, quand vous racontez vos expériences d'apprentissage des langues, ça commence toujours avec un dictionnaire. Ça commence avec cette méthode des images connectées, ces séries de mots qui entrent en vous de manière assez magique, même si vous venez d'expliquer il y a quelques minutes la méthode, où vous donnez un sens particulier aux mots avec des images que vous créez, etc., et pour les mettre en connexion les uns avec les autres. Mais il ne suffit pas de connaître des mots pour parler une langue. Voici ce que vous dites sur la grammaire. Vous dites que la grammaire et la mémoire découlent du jeu avec les mots. Quand on les frotte entre nos doigts, qu'on les roule sous notre langue, qu'on éprouve les diverses significations qu'ils dégagent, les manuels ne sont pas à la hauteur.
Oui, en effet, il faut pas seulement apprendre les mots comme une liste de vocabulaire, c'est très mauvais, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on apprend, c'est comme ça, malheureusement, qu'on m'enseignait le français au début, au collège, avec des listes de mots, et souvent les mots qui n'avaient pas de sens, on ne comprenait pas pourquoi on apprenait le mot cendrier, par exemple, et puis le mot chaussette, qu'il y avait quoi comme rapport entre les deux, mais chez moi, c'est trouver des connexions qui sont censées, qui n'est pas aléatoire. Des mots qui ont tous à voir avec la lumière, c'est un concept universel.
Et comment cela devient des phrases. On y revient, hein, juste après le flash, dans 3 minutes avec vous deux, bien sûr.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, les mystères de l'apprentissage des langues étrangères, les débats sont infinis sur les méthodes, que ce soit à l'école, par la lecture, les ateliers, qu'ils soient ludiques, par le voyage, la rencontre avec les autres. Il y a énormément de méthodes d'apprentissage. On en discute avec votre expérience et votre témoignage très particulier, Daniel Tammet. Vous publiez « Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter ». Vous avez beaucoup écrit aussi sur les chiffres, vous avez raconté votre parcours, votre expérience. Vous êtes né en Angleterre, de langue maternelle anglaise, mais en réalité ce sont les chiffres, votre langue maternelle, qui ont chacun une signification, une couleur, une texture même. Barbara Abdelila Bauer, vous publiez Le défi des enfants bilingues, et vous êtes bilingue allemand, de langue maternelle, français, puisque vous vivez en France depuis des années. Et tous les deux d'ailleurs, vous êtes en France, vous ne faites jamais une faute de français, jamais une faute de grammaire. C'est assez incroyable tout de même. Alors, Daniel Tammet, on a été interrompu par le flash, mais je vous posais la question de ce que vous reprochiez, en fait, à la lumière de vos expériences quand vous avez enseigné, notamment l'anglais, en Lituanie, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce qui manque dans notre façon classique d'enseigner les langues?
Mais souvent, on apprend de manière assez ennuyeuse, avec beaucoup de phrases, mais qui sont assez banales, qui n'ont aucune poésie, aucune musique, pas beaucoup d'intérêt. Et quand j'ai eu l'occasion d'apprendre, que ce soit l'islandais, ou un peu de lituanien, ou le français, ou c'est par, que ce soit par la poésie, ou par les histoires, que ce soit des nouvelles, des romans. Et les mots prenaient vie pour moi, comme ça. Et puis la grammaire, c'est un effet secondaire de voir les mots ensemble, comment les mots fonctionnent ensemble, puisque un humain, quand il est seul, il perd de sa personnalité, il devient pâle, blême. Tandis que quand on le remet au cœur de sa vie, que ce soit un village, une ville, sa famille surtout, ses parents, ses frères et sœurs, ses nièces, neveux, ses enfants, ses amis, celui ou celle qu'il aime, la personne change complètement. Et les mots, c'est pareil. Si les mots sont seuls sur une fiche, sur une feuille de papier, et on dit à un élève, il faut apprendre ce mot, il faut juste apprendre par cœur. On va apprendre par cœur, mais on va vite oublier, aussi vite oublier. Tandis que si on dit ce mot-là, vous voyez comment ça change selon où on le met dans une phrase. Et regardez cette phrase, combien elle est belle, les couleurs des... On n'est pas obligé d'être synesthète, on voit presque les couleurs des phrases quand on voit à quel point ça sonne juste, il y a une musicalité, il y a une fluidité, et puis ça veut dire quelque chose, ça parle de l'amour, de la mort, ça parle des choses qui nous intéressent fondamentalement. Donc c'est comme ça qu'il faut apprendre une langue.
Apprendre une langue avec ses émotions d'une certaine manière, Barbara Delia.
Oui, alors j'entends ça et je suis d'accord, oui, mais d'un autre côté, je me dis, les pauvres profs de langue, quand on se met dans le contexte de l'école, oui. On est en France ou n'importe où d'ailleurs, il faut du temps pour ça, il faut être un peu poète soi-même, il faut être enthousiaste et c'est pour ça, ça ne pourra pas marcher dans une classe. Vous avez une classe de 6e, de 30 élèves devant vous.
Certains 30 vont élèves, peut-être, déjà, vous êtes optimiste.
Oui, je suis optimiste.
Dans
voilà,
certains pays,
40,
c'est beaucoup plus.
Voilà, beaucoup plus. Il faudrait ajouter dans les cours actuels, très classiques, un peu de poésie, de la musique, de la poésie, des poèmes, aussi des chansons. C'est pas pour rien, il y a quelques années maintenant, tout d'un coup, l'allemand était devenu intéressant pour les petits élèves français parce qu'il y avait un groupe de musique qui s'appelait Tokyo Hotel. Et tout d'un coup, tous les petits voulaient faire allemand première langue, vous voyez. Donc il faut de la motivation, c'est surtout ça. Et après, je dirais, apprendre une langue, c'est pas que de la poésie et c'est parfois très très ennuyant et c'est dur. Et il faut passer par là, mais on arrive à passer par là. Parfois, il faut apprendre aussi des mots.
Mais est-ce que vous-même, Daniel Tammet, par exemple, vous astreignez quand vous apprenez une nouvelle langue à apprendre de la grammaire, ou est-ce que ça ne passe que par des images, des émotions et des images poétiques et belles?
Je pense que c'est une dichotomie un peu fausse.
Si on prend une langue comme la langue allemande où il y a des déclinaisons qui sont particulièrement
instituées. Oui, mais les Allemands n'apprennent jamais les déclinaisons de manière artificielle, avec les tables comme ça, sauf éventuellement pour peaufiner des détails assez tatillons à l'âge de 11-12 ans, et comme moi j'ai dû faire pour l'anglais à cet âge-là. Mais pour parler un allemand fluide, riche, à 5 ou 6 ans, presque n'importe quel allemand le fait sans jamais avoir mis le nez dans un livre de grammaire. Pourquoi? Parce que la grammaire n'est pas quelque chose en dehors d'une langue, c'est le cœur même d'une langue. Il faut seulement s'intéresser à
la grammaire,
à la construction
dans un contexte,
d'une...
En fait.
Oui, c'est
dans
ça.
Dans le
contexte
de la
une langue ne veut rien dire.
Alors, deux observations. Vous, Daniel, vous avez appris le lituanien ou autre, l'islandais. Vous étiez déjà bi ou trilingue, vous connaissiez déjà comment fonctionne une langue.
Oui.
Quand on a ça, après, en tant qu'adulte, on prend un livre, on essaie avec de la curiosité de décortiquer une nouvelle langue. Un enfant ou un élève ne peut pas faire ça. Donc le jeune enfant, par exemple, il va acquérir, on parle d'acquisition et pas d'apprentissage, acquérir sa propre langue. Vous disiez un jeune allemand de 5 ans, il n'a pas à réfléchir sur la grammaire. Tout à fait, dans n'importe quelle langue. N'importe quel enfant, quand il vient au monde, il a cette capacité d'apprendre à parler. Il va apprendre dans là ou les langues qui vont être parlées avec lui. Et cette capacité innée d'apprentissage, d'acquisition de la parole... Elle existe jusqu'à 7 ans à peu près, on sait aujourd'hui. Après 7 ans, le cerveau fonctionne un peu différemment. On a d'autres stratégies. On peut toujours apprendre une langue. Après, à partir de 7 ans, on parle d'apprentissage d'une langue. Et là, l'enfant va se baser sur ce qu'il connaît déjà de là ou des langues qu'il a apprises. N'est-ce pas? Donc, ce sont des choses différentes. Et mettre un enfant de 7 ans devant un livre où il arrive à peine à déchiffrer les mots... C'est difficile, mais cette méthode-là que vous faites en tant qu'adulte, on peut la faire si on a déjà des bonnes bases et je crois aussi, pas un don pour les langues, mais un intérêt poussé pour l'autre langue.
Oui, la différence, c'est que moi, l'expérience que j'ai eue, c'était avec les adultes surtout, bien sûr. Tandis que quand on est enfant très jeune, sauf à... En effet, avoir des problèmes neurologiques qui nous empêchent d'apprendre une langue, il est impossible de ne pas apprendre une langue. Les mères ont souvent peur, est-ce qu'il faut s'adresser à un enfant, est-ce qu'il faut utiliser une manière de parler très appuyée? Il y a des tribus africaines, justement, dans lesquelles il est absurde même de parler à un enfant, un bébé, puisque le bébé ne va pas vous répondre. Donc, et en même temps, le bébé va parler par la suite une langue africaine parfaitement. Donc on voit bien que ça relève plus de la culture que de ces questions de savoir est-ce qu'il faut apprendre comme ça, est-ce qu'il faut apprendre comme ça. En effet, on apprend tous, c'est instinctif quand on est très jeune. Plus tard, en effet, c'est moins instinctif, c'est plus de travail, c'est plus difficile.
Ouais.
Mais c'est possible d'apprendre, même à l'âge adulte,
Il est impossible de ne pas apprendre une langue. Cette formule est à mémoriser tout de même. En tout cas, retrouver une part instinctive de l'acquisition, de la façon dont une langue étrangère entre en nous. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on donne la parole à un professeur d'espagnol qui est en lycée au Cameroun. Bonjour Diderot.
Bonjour Emmanuel, bonjour Daniel et bonjour Barbara.
Bonjour.
Diderot, vous êtes professeur d'espagnol en secondaire. Hein, vous avez des élèves de la quatrième à la classe de terminale. Vous êtes dans un lycée bilingue français-anglais. Vous êtes prof d'espagnol à 80 km de Douala. Vous avez une manière assez particulière d'enseigner l'espagnol parce que vous avez été confronté à des difficultés, à l'ennui. Vous avez lu l'ennui sur le visage de vos élèves. Alors, comment avez-vous changé votre façon d'enseigner l'espagnol?
Bien, je vais situer mon propos en trois petits points. Donc, je parle d'abord des raisons, ensuite de l'importance de la méthode que j'applique et enfin des résultats. Quand j'arrive au lycée, je me rends compte que les élèves n'ont pas une bonne base. Donc jusque-là, pour reprendre le mot de Daniel tout à l'heure, ils avaient appris l'espagnol d'une façon ennuyeuse. Donc du coup, il n'y avait pas l'envie et l'amour de la langue espagnole. J'ai décidé donc d'enseigner et d'insérer dans mon projet pédagogique les cours de chanson, de cuisine et même de danse classique. Eh bien, l'importance de cela tient au fait que les chansons, surtout, en plus de leur côté divertissant, permettent de développer la compétence linguistique et dans ainsi le vocabulaire de l'apprenant.
Alors, vous avez traduit l'hymne camerounais en espagnol. Ça donne ça dans votre salle de classe. Il y a de l'ambiance, hein? Alors, sur le fait de chanter une langue pour mieux la mémoriser, ça, d'accord. Sur le fait de danser, c'est moins évident quand même pour un prof de langue étrangère, Diderot.
Danser parce que j'ai choisi une danse qui est d'origine hispanique, la salsa cubaine.
Ouais.
Parce que l'enseignement de l'espagnol au Cameroun impose que l'on doit développer chez l'apprenant et compétences, et parmi lesquelles la compétence socio-culturelle. Donc, avec la danse, je développe cette compétence et surtout, il permet de s'ouvrir sur le monde parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous enseignons l'espagnol au Cameroun. Et peut-être que prévu par la loi d'orientation scolaire, on doit former des Camerounais enracinés dans leur culture et ouverts sur le monde.
Qu'est-ce que vous observez sur vos élèves?
Les élèves sont déjà très motivés depuis le début de l'année parce que je suis passé de 20% en troisième, par exemple, à aujourd'hui 85%.
85% de quoi?
De réussite en espagnol à mon cours.
D'accord.
Et au niveau linguistique, je me rends compte que les élèves ont amélioré leur vocabulaire parce qu'après l'enseignement d'une chanson, j'exploite le vocabulaire, j'explique les mots. Et aussi, une autre chose qui est importante, c'est que le cours ou bien la chanson, je l'utilise comme un corpus ou un cours de grammaire. Par exemple, il y a une chanson que j'ai envoyée là et qui fait intervenir des diminutifs. Donc, quand je dois enseigner les diminutifs en espagnol, par exemple, je mets la chanson au tableau et on exploite les mots de la chanson pour introduire le cours de grammaire.
Ouais.
Et ça permet que les enfants captent plus facilement le cours après.
Et puis aussi, beaucoup de mots qui sont associés à des gestes, hein, notamment pour les cours de cuisine. Merci beaucoup, Diderot. On aimerait vous entendre encore, mais je pense que nos invités ont envie de réagir. Daniel Tammet.
C'est très juste ce que dit Diderot, puisque une langue est un jeu, fondamentalement. Et il faut, quand on apprend à jouer aux échecs, par exemple, si tout ce qu'on savait, c'était les mots pion ou dame, sans savoir comment jouer réellement le jeu, on ne comprendrait même pas à quoi ça sert d'apprendre ces objets, à utiliser ces objets. Dès qu'on apprend à jouer, entrer dans le jeu et à prendre du plaisir à le faire, à partir de ce moment-là, c'est... La chanson, quand on apprend une chanson, c'est pour apprendre une chanson. C'est pas simplement pour apprendre les mots dans une chanson, ou la grammaire d'une phrase dans une chanson. C'est tout d'abord pour apprendre la chanson. Et la grammaire fait partie, c'est ça que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, fait partie instinctivement de ce processus. Mais si on disait dès le début, on va apprendre la grammaire aujourd'hui pour apprendre une chanson, là, ça marcherait pas. À mon avis.
C'est vrai, c'est sûr.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Un auditeur, Sébastien, sénégalais qui vit en Autriche, nous appelle. Bonjour Sébastien.
Oui, alors bonjour.
On vous écoute Sébastien.
Oui, j'écoute très souvent votre émission et aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout les langues, parce que moi je parle Diola. Parce que je viens aussi du Sénégal, je parle Wolof et je parle espagnol parce que j'ai vécu 7 ans en Espagne. J'ai fait mes études là-bas. Après, actuellement, je vis à Vienne depuis 2012 et je parle allemand couramment aussi parce que je fais aussi des études ici. Mmh. Donc, je voulais tout juste.
Et vous parlez le français, vous avez oublié, Sébastien.
Ben, le français, parce que, bon, en fait, en tant que Sénégalais, c'est normal, je l'ai appris à l'école.
Oui, hein. Donc, vous parlez 5 langues couramment.
Oui, disons, oui. Actuellement, l'allemand, l'anglais aussi, je le parle parce que, bon, j'ai appris l'anglais au Sénégal aussi, au collège, et après en Espagne aussi, avec le tourisme que j'ai fait là-bas, il fallait apprendre aussi l'anglais. Aussi, ici à Autriche, c'est un pays où pratiquement tout le monde parle aussi anglais.
En un mot, qu'est-ce qui a facilité, alors bien sûr, le fait de vivre dans ces pays, mais qu'est-ce que vous, à la lumière de vos expériences, de votre multilinguisme, qu'est-ce qui fait qu'une langue puis une autre entre en vous, dans votre cerveau?
Ça, bon, moi, je crois que depuis Sénégal, j'avais toujours la facilité d'apprendre les langues parce que là-bas, j'ai commencé un peu à manipuler l'espagnol. Bon, après l'espagnol, après six mois, ça a été fait. Donc, je crois que après deux langues, après l'espagnol et l'anglais et l'allemand, c'était un peu plus facile parce que quand nous aussi nous parlons le diola, qui est un dialecte trop compliqué, donc en fait, je crois que ma tête est déjà prête à recevoir d'autres.
Ma tête était déjà prête. Elle est encore prête pour d'autres.
Et l'italien, je le comprends aussi parce que quelqu'un qui parle espagnol, il comprend automatiquement l'italien. Je ne peux pas répondre directement, mais l'italien, le portugais, par exemple, j'entends tout, mais je ne peux pas répondre couramment.
Merci Sébastien de nous avoir appelé. Daniel Tamet, vous vivez à Paris depuis près de 10 ans. Est-ce que vous avez compris, vous, pourquoi les Français sont si mauvais pour parler des langues étrangères?
En partie parce que la France n'est pas comme le Sénégal, où on parle 4 ou 5 langues tous les jours. En partie parce que l'histoire de la France a fait en sorte qu'on apprenait tous une langue, une seule langue, une langue nationale. Et on a voulu donc supprimer, écarter les langues régionales qui existent aujourd'hui encore, mais qui sont très 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 minoritaires.
Le breton, le basque, le corse.
Oui. Et puis, c'est une question du système éducatif. On apprend très mal, on ne donne pas aux enfants, comme arrive à faire Diderot avec ses élèves, le goût, l'envie. Et à partir de ça, mais les enfants décrochent malheureusement.
Mais il y a aussi, moi je trouve que c'est un mythe, hein, et c'est très facile, c'est un peu la facilité de quand vous avez quelqu'un qui dit, les Français qui disent, mais nous on n'est pas doués pour les langues, et puis comme ça on se dédouane, on n'essaie même pas. Oui. Je dis, mais pourtant il y a des polyglottes, il y a des Français polyglottes, il y a des Français qui parlent parfaitement, ça existe, donc c'est pas une tare ou c'est pas une malédiction de tous les Français de ne pas être doués pour les langues. Il ne faut pas être doué, il faut juste avoir la motivation.
Oui.
Et puis, on est très perfectionniste en France. Et du moment où quelqu'un, un Français, prononce un mot, il a l'impression qu'il a un accent trop fort ou il ne connaît pas suffisamment le mot, mais il préfère dire « mais je ne parle pas » en anglais, par exemple. Vous voyez.
Et pourtant, Dieu sait que les Français aiment parler. Vous écrivez dans votre livre, Daniel Tamet, « Un déjeuner de famille peut durer des heures. Les Français aiment parler et surtout parler de la manière de parler. »
Oui.
Daniel Tamet, aujourd'hui, vous rêvez dans quelle langue? Avec des mots d'ailleurs, avec des chiffres, avec des images, avec des sensations, avec des émotions?
Avec des images. Apparemment, quand je parle dans mon sommeil, je parle parfois dans mon sommeil, je parle en français. Mais sinon, quand je rêve, c'est en image. Jamais en mots.
Et la langue de la poésie, vous qui êtes si sensible à la poésie, aujourd'hui, y a-t-il, parmi toutes les langues que vous avez parlé ou que vous parlez encore, entre 7 et 10 langues, y a-t-il une langue qui se distingue pour la poésie, pour la mémorisation des images poétiques?
Non, je ne dirais pas ça. Je pense que la poésie est quelque chose d'universel. Il y a des poètes fantastiques allemands, il y a des poètes fantastiques français. Anglais, africain, je connais moins, mais sûrement sénégalais et autres, et arabe, bien sûr. Donc c'est pour ça que je trouve la poésie très intéressante comme manière d'apprivoiser le langage, d'apprendre une langue, puisque c'est un jeu. On n'essaye pas de dire les phrases banales. même si dans la vie de tous les jours, on utilise souvent ces phrases-là, mais tout d'abord, on utilise les phrases qui ont un sens fort, qui reste. Et ce n'est pas une question de mémorisation, c'est une question de quête de sens. Chaque humain est en quête de sens. Et à partir du moment où on voit dans un texte, où on entend dans une chanson quelque chose qui nous touche profondément, on n'a pas besoin de mémoriser. Ça entre en nous, ça reste.
Alors, retenez bien le titre du livre de Daniel Tammet, traduit de l'anglais en français. « Chaque mot est un oiseau que l'on apprend à chanter ». Merci d'être passé dans le studio de 7 milliards de voisins. Barbara Abdelila Bauer, vous avez renouvelé l'édition du Défi des enfants bilingues aux éditions La Découverte. Votre livre, Daniel Tammet, est publié aux éditions Les Arènes. Mais bien sûr, tout est noté, toutes les références sur notre site RFI.fr. À la page des 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Un nouveau rendez-vous chaque vendredi pour aider les parents dans leurs réflexions avec leurs enfants, avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous réfléchissez beaucoup aux évolutions de la famille, au métissage, notamment avec la revue L'Autre. Et c'est Noël qui a inspiré votre première réflexion chez 7 milliards de voisins. Pourquoi fait-on croire des choses naïves aux enfants ?
Oui. Partout, la culture, la société, les familles inventent des histoires à raconter aux enfants d'une génération à l'autre. C'est absolument incroyable, comme si les enfants avaient besoin de ça pour grandir. Alors bien sûr, il y a le Père Noël, une histoire très fréquente qui a plein de variantes, mais il y a aussi le Saint-Nicolas dans les régions du nord de l'Europe. C'est encore une histoire différente, mais à chaque fois, c'est des histoires quand même qui font peur, qui inquiètent, alors qu'ils sont très ritualisées. Hein, Lévi-Strauss parlait de rite initiatique pour le Père Noël, c'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est un processus qui va se dérouler et il faut respecter un certain nombre d'étapes pour arriver à la fin de ce rituel.
Et c'est pour ça qu'on les attend avec d'autant plus d'impatience en même temps du côté des enfants. Il y a d'autres variantes en Europe ou en Afrique de ces histoires dites naïves?
Alors oui, alors en fait c'est des histoires profondes. Hein. Par exemple, il y a les rois mages en Espagne qui amènent les cadeaux aux enfants, c'est encore une autre variante. C'est comme le petit Jésus, Là, les cadeaux sont amenés par les rois mages. Et en Afrique de l'Ouest, par exemple, on évoque les mamies Ouata qui font un peu peur aux enfants, d'ailleurs, qui peuvent les attraper dans des circonstances un peu différentes, mais c'est à la tombée de la nuit ou quand il se passe quelque chose, ou au bord d'un fleuve. Donc les mamies Ouata, c'est très impressionnant. Et chez les plus grands, les adolescents, il y a d'autres rites initiatiques. Par exemple, on les emmène à un moment donné dans un bois sacré et dans ce bois sacré, il va y avoir toute une série d'étapes, des choses parfois qui peuvent faire peur, qui sont violentes, qui sont inquiétantes. Et puis, à la fin de ce processus initiatique, les adolescents, ils apprennent des choses qu'ils ne pourront pas dire aux non-initiés ni aux femmes qui, en général, dans ces rituels, en tout cas qui sont réservés aux garçons, ne leur sont pas destinés.
Bois sacré, bois secret, mais alors pourquoi ce besoin de faire peur aux enfants et aux adolescents depuis toujours finalement ?
Eh bien oui, depuis toujours et partout, et sous des formes tellement différentes qu'on se dit que ça doit avoir quand même une fonction. On a beaucoup étudié et on pense aujourd'hui que cette nécessité de raconter des histoires qui font peur aux enfants, et aux adolescents, c'est pour les aider à maîtriser justement leur peur, pour les aider à trouver des manières de l'apprivoiser. Et en ritualisant, c'est-à-dire en faisant toujours de la même façon, alors on sait que on va se poser des questions, on sait qu'on va avoir peur, on sait qu'il va falloir résoudre des énigmes, on sait qu'on va, par exemple, faire des rêves, mais à la fin, on va découvrir le secret. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'un processus d'apprentissage pour apprivoiser les peurs, les inquiétudes, les choses énigmatiques de la vie. Et lorsque on aura apprivoisé tout ça, on n'aura plus besoin de rituels, mais on n'aura plus non plus d'illusions ni
c'est
de croyances.
C'est triste. Préservons nos petites terreurs pour préserver une part d'enfance.
En tous les cas, d'énigmes et de magie.
Et surtout, continuons à faire croire des histoires naïves aux enfants, mais avec une certaine bienveillance. Hein. C'est ce qu'on a compris aussi, Marie-Rose.
Avec une totale bienveillance. C'est pour aider à grandir.
Merci, Marie-Rose Moreau. Vous avez, entre autres, publié « Aimer ses enfants, ici et ailleurs, histoire transculturelle » chez Odile Jacob. Et bien sûr, vos ouvrages sont à retrouver sur la page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Daniel Tammet, on vous a raconté comme ça des histoires chimériques, comme on dit aussi
oui.
en français, dans votre enfance.
Ah oui, absolument, j'ai adoré.
Vous avez grandi dans une famille nombreuse.
Nombreuse, je suis l'aîné de 9 enfants. Chose pas forcément incroyable en Afrique, mais en Europe, c'est plutôt rare. Et j'ai adoré les frères Grimm. Quand j'étais petit. Et,
des contes de Grimm.
De Grimm. Et,
qui sont des histoires souvent frissonnantes.
Oui, aussi. Et puis magiques, des choses qui n'existent pas dans le monde dit réel, mais qui existent dans notre imaginaire et qui nous aident aussi à apprendre notre langue maternelle, ou la langue de nos parents en tout cas. Et puis, par la suite, de penser notre vie, de penser notre existence. Ça reste avec nous, même bientôt 40 ans, je pense encore à ces histoires.
C'est exactement ça. En tout cas, les voisins, n'hésitez pas à nous écrire si vous vous interrogez sur l'éducation et vos relations aussi avec vos enfants. Merci à vous tous. Vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr pour poser vos questions aussi à Marie-Rose Moreau, qui tiendra cette rubrique et ses chroniques chaque vendredi. On se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, un an après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Où en est la société américaine ? Retour lundi.